Donc il y a quelque chose. Ah voilà, maintenant ça vient. Voilà. Pas trop fort, juste comme il faut. Combien étaient ici il y a 5 ans dans l'église? Vous étiez dans l'église il y a 5 ans. Levez-vous. Levez-vous. Il y a 5 ans, hein, vous étiez là. La première réunion les premières réunions dans le. Oui, ben, asseyez-vous. Les premières des premiers. Non, chez moi. Venez ici devant. Non, vous n'étiez pas là, la première. Venez ici. S'il vous plaît. Avancez. Tout ce monde. Et Jérôme, où est-il? Et Anne est où? Ah bon, ok. Alors, il y a 2 autres. Anne est là? Anne, viens. Je dis, voilà la première église. Regardez maintenant, c'est un encouragement pour vous. Hein? Marie-Vonne est là, oui. Voilà, tout ce monde était là, on se réunissait et Dieu a béni. Regardons ce que Dieu peut faire. C'est un encouragement pour vous aussi, hein? Continuez à prier. Regardons ce que Amen. Dieu peut faire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Le psalmiste a crié, Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Et cela, c'était une citation de ce que les Israélites ont dit lorsqu'ils quittaient l'Égypte. Ils ont vu des miracles formidables. Dieu a fait des choses extraordinaires, mais ils ont vite oublié tout ce que Dieu a fait parce qu'ils étaient en face d'un autre problème. C'est pas la dernière fois que c'est arrivé. Hein? On oublie trop vite ce que Dieu a fait pour nous. Les fois où il est venu à notre aide, les fois qu'il nous a sorti des pièges, des diables, toutes sortes de choses. Mais aussitôt qu'on arrive devant un autre problème, on oublie comment Dieu nous a protégés dans les jours passés. Eh bien, c'était pareil. Ils étaient là, sortis de l'Égypte, en face du désert. Alors, il y avait au moins 14 jours entre là où ils étaient et pour entrer dans le pays promis. Donc, comment 1 million de gens, plus les animaux, pouvaient-ils boire et manger 14 jours, et s'il y avait des pépins, le long du chemin, peut-être même 30 jours, imaginez 30 jours dans le désert sans eau et sans nourriture, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Moi, je vous dis ce matin que non seulement Dieu les a gardés pendant 30 jours, mais il a fait tomber la manne, il a fait jaillir l'eau pendant 40 ans. Oui, Dieu peut le faire. Dieu peut dresser des tables dans le désert. Quel encouragement pour nous quand on voit tout ce que Dieu a fait dans le passé. Bien sûr, il faut dire que non, Dieu n'ouvre pas la mer pour laisser des gens passer aujourd'hui. Il n'arrête pas le soleil comme au temps de Josué. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas encore des miracles. Parce que j'entends trop souvent, oui, dans le temps, oui, Dieu pouvait faire de grandes choses. Dieu a fait de grandes choses, mais maintenant on est en 2010. Toutes ces choses sont derrière, la Bible est un peu dépassée. Alors, on est dans une autre époque. Est-ce que Dieu peut encore répondre à la prière? Est-ce que Dieu peut encore faire des miracles? Bien sûr que oui. Combien de fois les gens presque morts, Dieu les a touchés? Je connais des gens comme ça, par leur nom. Au seuil de la mort, et Dieu les relève et leur permet de continuer à vivre. Combien de fois Quelqu'un a cherché du travail pendant des mois, des voire des années. Et puis, à la réponse à la prière, il a un travail. Ou quelqu'un qui n'a pas d'appartement et qui prie. Est-ce que Dieu peut donner un appartement? Bien sûr, il peut donner un appartement. Il peut donner n'importe quoi. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. Dieu peut tout. Ce qui est impossible aux hommes, dit dans la Bible, est possible à Dieu. Nous devons lui faire confiance et avoir cet attachement à lui qui montre que nous avons confiance en lui, qui peut faire des choses extraordinaires. Dieu nous a donné ce local, cette salle. Et quand je dis ceci, je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont dire, « Oh, vous dites c'est Dieu qui a donné cela, mais comment pouvez-vous dire que c'est Dieu qui... » Peut-être c'est par vos efforts que vous avez eu ça. Je vais vous dire comment on a eu cette salle. Peut-être ça va vous aider à comprendre pourquoi je peux dire Dieu nous a donné ce local. C'est que quand on veut un local pour une église, d'abord il faut que ça soit assez, le local soit assez grand quand même pour les accueillir. Et puis si on veut que les gens le trouvent, il faut que ça soit dans un endroit acceptable quelque part où c'est facile à trouver tout ça. Et puis, il y a des choses. Donc, je me suis dit, comment je vais m'y prendre? Alors, j'ai regardé sur l'Internet, j'ai collectionné tout un tas d'agences immobilières et j'ai noté chaque fois que j'ai téléphoné, j'ai noté, voilà, après une vingtaine, une trentaine de coups comme ça, toujours, non, on n'a rien. Oh, je dis, c'est pas la peine que je note chaque fois, je vais simplement téléphoner. Alors, puis j'ai téléphoné un jour et la personne a dit, oui, je crois que j'ai ce que vous cherchez. C'est derrière la gare de Montparnasse. Ah oui. Eh bien, merci beaucoup. Hein. Alors, mais je vais vous envoyer une photo de cela. Ah oui, faites-le, oui. Jacques, je dis, derrière la gare de Montparnasse, je connais ces taudis qui sont derrière, parce que j'ai visité cet endroit il y a 35 ans. Donc je connaissais très bien ce qu'il y avait derrière la gare Montparnasse. Alors, un mois est passé, ou plus. Un jour, je me suis promené dans une rue et je vois là une pancarte qui disait 500 mètres à louer. Oh là là! J'ai dit, on n'a pas besoin de 500 mètres, mais quand même, c'est divisible. Je vais téléphoner. Il y avait deux agences. On pouvait choisir l'une ou l'autre. Bon, j'ai choisi une et j'ai téléphoné. Et ça répondait. J'ai dit, est-ce que cette salle-là, tel endroit, est-ce que c'est divisible, ces 500 mètres? Ah non, monsieur, je regrette beaucoup, mais il faut prendre la totalité ou rien du tout. Dites... Votre voix me semble, je l'ai déjà entendue, vous ne cherchez pas quelque chose pour une église? Je dis oui, mais vous m'avez téléphoné l'autre jour. Alors, oui, alors je vous ai dit que c'est derrière la gare Montparnasse, vous êtes allé le voir? Ah non, mais vous ne m'avez pas non plus envoyé la photo. Bon, il a dit d'accord, je l'envoie tout de suite. Et je vois que tout était rasé et tout était rebâti, que c'était tout neuf ici d'après la photo. Oh, je dis, voilà, il faut que tu ailles immédiatement. Et tout de suite, je suis venu ici pour regarder. Il y avait du plâtre devant, il y avait du plâtre derrière. Mais quand j'ai vu où c'était situé, je savais que c'était Dieu qui m'a envoyé ici, que je n'avais aucune crainte. Je savais que c'était ça. Pourquoi? Parce que d'abord, de tomber sur l'agence qui avait l'exclusivité de ce local, comme ça, que ce n'était pas cédé à quelqu'un d'autre pendant un mois, que quand je téléphonais à deux, j'ai tombé sur le même que j'avais autrefois, et quand dans une agence, il y a toujours quatre ou cinq personnes différentes, j'aurais pu tomber sur l'un de l'autre, mais je suis tombé justement sur la personne qui m'avait entendu. C'est pas un hasard, ça. Il y a trop de choses, là. C'est Dieu. Dieu nous dirige pas à pas si on lui fait confiance. Dieu est là. Et c'est pour cela que j'ai dit, Dieu peut dresser une table dans le désert. Vous avez besoin d'un travail, faites-lui confiance. Priez, Dieu répond. Mais je vais vous dire une chose. Il y a une chose dans la vie qui est plus importante que des choses matérielles. Et ça, c'est de connaître Dieu. C'est d'être près de lui, d'être intime avec lui, de partager sa vie avec lui, de savoir qu'il est avec vous, que vos péchés sont pardonnés, que si quelque chose vous arrive, un accident, vous êtes avec lui pour l'éternité. C'est ça qui est merveilleux. C'est Mais vous me dites, mais comment quelqu'un peut-il être sûr d'être sauvé? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir? Quelle est la mesure? Comment arrive-t-on à savoir si on est sauvé ou non? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, qui ont fait de bonnes œuvres, mais vraiment, de tout cœur, qui sont sincères et tout ça. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il y a autre chose? Comment savoir si vraiment on est sauvé ou non? Je vais vous donner deux versets dans la Bible qui vont vous aider à le savoir. Un de ces versets, c'est en 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17, nous allons le lire et ça dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, comment savoir si on est sauvé? Alors, je vais vous demander, si vous avez eu un jour dans votre vie où tout d'un coup, comme disait le pasteur Jean-Alain, tout change. Il y a un déclic. On sait qu'on est passé de la mort à la vie. Et tout d'un coup, on devient une nouvelle création. Est-ce que vous avez eu ce jour dans votre vie où, à partir de ce jour-là, les choses anciennes sont passées? C'est-à-dire, les péchés dans lesquels vous étiez autrefois, vous trouvez un dégoût maintenant. Vous ne voulez plus les faire. Et les choses que vous ne penserez jamais, tout d'un coup, vous les aimez. Je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur. Oh, qu'est-ce que j'ai voulu venir à l'église. Je vivais pour le dimanche seulement. D'ailleurs, ça continue toujours. Hein. Je vis pour le dimanche. Hein. J'aime le dimanche parce que là, je suis avec les autres chrétiens et j'entends la parole de Dieu. Je suis avec Dieu. Oh, c'est merveilleux. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à prier. Mais je ne faisais pas toutes ces choses avant. Oh, bien sûr, j'avais... Vous savez ce que ma mère a fait? Elle m'a donné une nouvelle Bible chaque année pour Noël. J'avais une collection, hein, j'avais une toute petite bibliothèque de Bibles. Et chaque fois que j'ai reçu une nouvelle Bible, j'ai lu jusqu'au Genèse 15 à peu près. Puis je l'ai remis à sa place. Et là, elle restait. Tout d'un coup, j'avais envie de lire la Bible. J'avais envie de prier. J'étais tout près du Seigneur. Je sentais sa présence en moi, une joie... On n'a pas des paroles pour l'exprimer. Vous qui l'avez goûté, vous savez ce que je veux dire. Cette paix, cette joie intérieure qui vous envahit. Vous savez que c'est le Seigneur qui vous parle. Votre esprit est en contact avec Dieu. Oh, que c'est délicieux, c'est merveilleux cela. Alors, je vais vous dire ce matin, si vous avez eu cette expérience, si vous pouvez dire, oui, il y avait un tel jour dans ma vie, où je sais... que tout a changé. Je suis une nouvelle personne. Je ne suis pas la même personne qu'autrefois. Alors, vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé, alors. Mais vous dites, oui, mais moi, je ne peux pas dire que j'ai eu vraiment ce grand changement. Je n'ai pas eu ces transformations dans ma vie. Alors, vous n'êtes pas sauvé. C'est comme ça qu'on le sait. Si quelqu'un est en Christ... il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà la façon. Ça, c'est un des versets qui aide beaucoup tous ceux qui se demandent, est-ce que je suis sauvé ou est-ce que je ne suis pas sauvé? Alors, cela va vous aider à le savoir. Puis, deuxième verset, c'est en 1 Jean chapitre 5, versets 12 et 13. 1 Jean 5, 12 et 13. Et ce verset dit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça veut dire que si vous avez Christ en vous, vous avez la vie éternelle. Si vous n'avez pas Christ en vous, vous n'avez pas la vie éternelle. Ça, c'est l'autre verset. C'est étonnant que quand on lit la Bible, c'est toujours différent de ce que les gens vous racontent. Quand on est avec du monde, ils s'intéressent à des religions. Vous êtes musulman? Vous êtes catholique? Vous êtes hindou? Est-ce que vous êtes protestant? Le verset ne dit pas si quelqu'un est catholique ou si quelqu'un est protestant ou baptiste. Il a la vie éternelle. Regardez le verset. Celui qui a le Fils a la vie. Ce n'est pas une question de religion. Pourquoi? Parce que les religions ne peuvent pas nous sauver. Les religions ne sont pas mortes pour nous. Les religions ne peuvent pas pardonner les péchés. Il n'y a qu'une seule personne qui peut pardonner les péchés, c'est Christ lui-même. Il y a une seule voie qui mène au ciel. Jésus a dit, je suis la porte. Il a dit aussi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et puis, il ajoute, nul ne vient au Père que par moi. Donc, si on a Christ, on a tout. Si on n'a pas Christ, on n'a rien. Celui qui a le Fils, il a la vie. Une autre chose, vous avez remarqué, ça ne dit pas celui qui fait beaucoup d'œuvres à la vie. Parce que les gens parlent toujours de leurs œuvres. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et un tel, regardez tout ce qu'il a fait. Non, il n'est jamais question d'œuvres, c'est une question de fils. J'aime beaucoup ce que quelqu'un a dit l'autre jour, je l'ai entendu. Il a dit, si c'était des œuvres, on aurait toujours la question, quelles œuvres? Quelles œuvres Dieu accepterait-il? Et puis en plus, combien? On ne saurait jamais si on a fait de bonnes des œuvres qu'il fallait faire, et on ne saurait jamais si on a fait assez. Heureusement, il n'a pas dit celui qui fait des œuvres a la vie, mais celui qui a Christ. Amen. Amen. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Un point, c'est tout. Si vous avez Christ ce matin dans votre cœur, s'il y avait ce jour dans votre vie où vous avez dit, Seigneur, entre dans mon cœur et sauve-moi, si vous avez fait ça, vous avez la vie éternelle. Mais si vous ne l'avez pas fait, même si vous avez une religion, même si vous avez fait de bonnes choses, vous n'êtes pas sauvé. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais regardez le verset qui suit. Regardez, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors voilà, ce verset n'a pas été écrit à tout le monde, mais à ceux qui ont cru déjà en Jésus-Christ. Je vous ai écrit, à vous qui avez Christ en vous, je vous écris pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Maintenant, on va prendre ces mots l'un après l'autre. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Aujourd'hui, les gens, quand je leur pose la question, vous êtes sauvés? Vous allez au ciel? J'espère, oui. Oui, pourquoi pas, je pense, oui. Vous êtes sûr? Oh, sûr, non. Je ne suis pas sûr, mais je l'espère quand même. Oh, d'ailleurs, je n'ai pas fait beaucoup de mal. Hein. Il y a une dame l'autre jour qui m'a dit, vous savez, je ne suis pas une personne comme beaucoup d'autres. Je connais des gens qui ont beaucoup péché, pas moi. Hein. Vous savez, on n'a pas besoin de faire tous les péchés du monde pour être un pécheur. Hein. On est pécheur par naissance. On pêche parce qu'on est pécheur. On ne devient pas pécheur parce qu'on pêche. C'est le contraire. Un pommier qui produit des pommes. On est pécheur depuis la naissance, dit la Bible. On est éloigné de Dieu. On est étrange à Dieu. On n'est pas avec lui tant qu'on n'est pas passé par la nouvelle naissance. Vous vous souvenez de Nicodème, cet homme très religieux qui est venu à Christ la nuit en disant, « Bon maître, que dois-je faire ?» et tout cela. Et le Seigneur a dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Il n'a rien compris. Il a dit, « Moi qui suis vieux, est-ce que je vais de nouveau entrer dans le sein de ma mère et naître ?» Le Seigneur a dit, « Non. » Il a voulu dire, il y a la naissance première, mais il y a la naissance spirituelle après. On a une véritable naissance. C'est à ce moment qu'on devient chrétien, qu'on devient un enfant de Dieu. On passe de la mort à la vie. On est à lui. C'est ça que ça veut dire. Celui, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui me disent, on ne peut pas le savoir, il faut attendre. Quand on arrive devant Dieu, il va dire, toi tu restes, toi tu es en enfer. Hein, toi. Toi aussi tu restes, mais toi tu es en enfer. Non, on sait d'avance, on sait maintenant. Je crois que c'est ça qui m'a surtout attiré vers Christ. C'est de penser que je sais où je vais passer l'éternité. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Maintenant, ce n'est pas merveilleux? On a la vie éternelle. On sait où on va. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement venir à Christ en disant, Seigneur, j'ai gâché ma vie jusqu'ici. J'ai pensé faire de bon, de bien. J'ai pensé que ma vie était en règle, mais je me comprends. J'ai compris ce matin, il me manque quelque chose. Je ne peux pas dire avec certitude, j'ai la vie éternelle. Je ne peux pas dire non plus que je suis une nouvelle création, que je suis transformé. Mais ce matin, je viens à toi, mes mains sales, je n'ai rien dans mes mains. Seigneur, je viens tel que je suis. Ce n'est pas la peine que je cache quoi que ce soit, tu me connais, tu connais tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et je viens tel que je suis. Et je te demande, Seigneur, accepte-moi, viens dans mon cœur, sauve-moi, lave ma vie et fais de moi ton enfant. Et quand on fait cela, le Seigneur dit, oui, je t'accepte, et il vous sauvera sur le coup, instantanément. Vous serez une nouvelle création en Christ. Ça, c'est le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. On a la vie. La vie pour toujours. Prions Dieu. Oh, combien c'est merveilleux de savoir qu'on peut connaître Christ, qu'on peut vivre avec lui pour toujours, qu'on peut avoir cette paix, cette joie, cette communion, d'avoir notre esprit purifié totalement. Oh, ce matin, après avoir entendu ce témoignage de Jean-Lin, et ce message maintenant, est-ce qu'il y a quelques-uns ce matin qui disent oui ?